Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast qui est là pour vous donner envie de voir ou revoir une œuvre du 7e art grâce à une conversation intime où mon invité nous évoque sa rencontre et le lien tissé avec un film qui l'a marqué et qui est devenu, à force de l'avoir visionné, un long métrage synonyme de souvenirs personnels ou bien une vraie source de vocation ou d'inspiration. Petit message d'usage, vous en avez l'habitude, si vous avez envie de faire connaître cette émission auprès d'un large public et si vous souhaitez encourager le travail effectué sur ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Je me ferai un plaisir de lire vos adorables messages ici en fin d'émission pour vous remercier directement. C'est fou comme ça passe vite, on en est déjà au 20e épisode et mon invité s'appelle Isaac. Pour les fidèles de l'émission, ce prénom va sûrement vous parler. Il était déjà passé dans l'épisode 4 pour raconter sa relation si particulière avec le cinéma de Brian De Palma. Mais cette fois, c'est le film JFK qui sera au centre de la conversation. C'est après avoir vu le docudrama d'Oliver Stone, sorti en 1992, qu'Isaac a intégré l'idée que tout ne doit pas être pris pour argent comptant. À tel point que le journaliste reporter d'images de 32 ans, quand il est plongé dans de la documentation, il est toujours fondamental pour lui de garder une certaine forme de discernement. Avec Isaac, on a parlé de Kennedy, bien sûr, de Lee Harvey Oswald, d'Oliver Stone, de Kevin Costner, de complotisme, de consommation d'informations, de fake news, de recherche de la vérité, mais aussi de plaidoirie. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec le jeune expatrié juste après un extrait de la bande-annonce de JFK.
Who are you scared of, Dave?
Me? Afraid of everybody. Everybody. Agency. Mob, Cubans.
You just talk to us on the record, we'll protect you, I guarantee it.
It was a day that changed our lives.
I saw a flash of light in the bushes, and that last shot.
An act that shocked a nation.
The smoke came from behind the hedge.
A moment when time stood still.
It seemed like people weren't even breathing, like you were looking at a picture.
For one man, it became an obsession with truth.
He's the DA in New Orleans. Don't you think the Kennedy assassination is a little bit out of your domain?
A commitment to justice.
Nobody's gonna tell me that kid did the shooting job he did from that damn bookstore.
A sacrifice of everything he had.
I think you care more about John Kennedy than your own family.
For everything he believed.
Nothing is gonna keep me from going ahead with my investigation of John Kennedy's murder.
Bonjour Isaac.
Bonjour Junior.
Sois à nouveau le bienvenu dans le film qui a changé ma vie. Je suis très 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 content que tu sois là à nouveau.
Et très content d'être invité aussi, Junior.
Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode dans lequel on a longuement discuté des trois films de De Palma, qui étaient Scarface, Mission Impossible 1 et L'Impasse, est-ce que tu peux rappeler à nos auditrices et auditeurs où tu es, toi, parce qu'on fait cette interview à distance?
Ben moi, j'habite depuis un an et demi à Frederiksberg, donc c'est juste à côté de Copenhague, au Danemark. On a déconfiné, pour info, avant vous, voilà, histoire de vous taquiner, mais voilà, ça va, tout va bien.
Au moment où on enregistre, on vient à peine de se déconfiner en France. Il y en a qui ont de la chance, hein. Ouais, il y en a qui ont retrouvé les terrasses plus vite.
J'espère que ça va durer pour vous.
Merci en tout cas, on en a bien besoin parce que ça a duré trop longtemps. Aujourd'hui, on est là pour parler du film JFK d'Oliver Stone, mais d'abord, avant d'évoquer ce grand et long film, hein, encore un, je crois que vous passez le mot pour me refiler des films de 3 heures à mater, c'est pas possible.
Ah, on est passé 3h25, je crois, un truc comme ça.
Voilà, c'est génial. Là, vivement que la saison se termine, avant de rentrer de plein pied dans l'histoire, est-ce que Isaac, s'il te plaît, pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce film, tu peux nous faire un résumé?
Alors, JFK est basé sur l'enquête qui a tourné autour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, donc président américain assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. Et donc, suite à ce meurtre, un suspect, Lee Harvey Oswald, est arrêté. Il est exécuté par Jack Ruby, un mafieux. Donc, l'affaire n'a pas été résolue tout à fait. Mais une commission Warren donc, a mené une enquête pour maintenir la culpabilisation de Lee Harvey Oswald. Trois ans plus tard, le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, reprend l'affaire en fait. Il a lu les 27 volumes de la commission Warren et il voit quelques irrégularités, quelques manques en fait dans l'enquête. Donc il décide de se lancer dans une nouvelle enquête. Et donc c'est là que les problèmes vont arriver, vu que sa théorie, qu'il y a eu un complot pour assassiner John Fitzgerald Kennedy, un complot qui vient des plus hauts sommets, donc du gouvernement, de la CIA. Et on va voir donc les conséquences qu'a cette enquête sur sa vie privée.
Oui, en effet, le tout mené par Jim Garrison, incarné par Kevin Costner, et qui est un ancien militaire, un ancien du FBI, qui vraiment s'est plongé à corps perdu dans ce rapport de la commission Warren. Le casting de ce film est complètement dingue. Donc Kevin Costner que je viens de citer, Tommy Lee Jones, un tout jeune Gary Oldman, futur commissaire Gordon de Batman, Vincent D'Onofrio également, futur Fisk dans la série Daredevil, Sissy Spacek, ancienne Carrie, Joe Pesci, qu'on a pu voir dans Maman j'ai raté l'avion, Kevin Bacon qu'on ne présente plus, Holloman et j'en passe, Donald Sutherland, le Snow des Hunger Games, bref.
Et Jack Lemmon.
Oui, Jack Lemmon également. T'as un film en tête avec lui ?
Jack Lemmon, bah les films de Billy Wilder en fait.
On va essayer de faire les choses dans l'ordre, Isaac. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment la jeune génération, qui n'ont pas forcément vu ce Oliver Stone. J'aimerais bien savoir, toi, Isaac, quel mot tu mettrais dessus pour définir JFK en tant que genre ? Moi, j'ai lu que c'est un docudrama, un mélange de réalité et de fiction. Est-ce que pour toi, c'est une définition qui te convient ou tu le présenterais autrement ?
Il y a le terme film dossier, mais c'est pas super parlant forcément. Thriller politique, je pense qu'on peut le classer dans le domaine thriller politique. Ça peut le faire.
Oui, comme il y en avait pas mal hein, dans les années 90, comme La Firme.
Exact. On peut même dire film historique, hein, vu que c'est basé sur des faits réels. Enfin, l'enquête a vraiment été déroulée, peut-être pas exactement au millimètre près, comme souvent au cinéma, mais c'est basé sur des faits réels.
Quand tu vois le film pour la première fois, on est en quelle année et tu avais quel âge, Isaac ?
Alors, quand je vois le film, je crois que j'ai 17 ans. Ça nous ramène à 2006, je crois. C'est aussi la période où je commençais aussi à m'intéresser au cinéma. C'était devenu ma passion. Donc je m'étais mis à regarder tous les films de n'importe quel réalisateur qui me passait sous la main, quoi.
Et c'était ton premier Oliver Stone ou il y en a eu d'autres avant ?
Je crois qu'il y a eu Tueur Né avant. Il y a eu Tueur Né et L'Enfer du Dimanche, donc qui m'avait vraiment aussi bien scotché. Et JFK est venu après, quoi. Et après tous les autres. Ouais, j'ai quand même une passion pour ce réalisateur. C'est quelqu'un qui m'a marqué.
Oui, on lui doit également Savages, on lui doit le film sur W. Bush, on lui doit World Trade Center. Et L'Enfer du Dimanche, c'est l'un de ses meilleurs, en effet. C'était sur le milieu du football américain. Hein. Notamment, on lui doit Nixon aussi. Suite logique quand on a traité JFK.
Tout à fait, avec des gros castings toujours, quoi. Il y a vraiment le chic pour retrouver les acteurs de prestige et les ramener dans ce film, quoi.
Quand tu vois pour la toute première fois JFK, qu'est-ce qui traversait ton esprit ? Qu'est-ce que tu ressentais en voyant le film ?
Bah déjà, film plus adulte que la moyenne en fait, à mon époque. Quand j'avais cet âge-là, c'est un film où t'as beaucoup de dialogues, t'as très peu d'action quand même. C'est moins punchy que la plupart des Oliver Stone. Donc ça se passe plus dans le côté dialogue, dans le côté enquête. Et la première fois, c'est compliqué. T'es submergé d'informations, submergé d'images. C'est pour ça que j'ai vu aussi plusieurs fois pour ça, parce que t'as beaucoup d'informations qui sont balancées par Oliver Stone. T'as pas forcément le temps de les digérer, il t'en rebalance encore. Donc c'est un peu la méthode Stone. Parfois, il y a des petits liens avec la manipulation quand même, quoi. Mais j'étais quand même abasourdi par le film, quoi. Stone avance ses thèses, qui peuvent être discutables, hein, mais tu te les prends en pleine poire et il te balance sa vérité. Ça résonne quand même. Il y a des scènes vraiment où je me suis posé des questions, quoi. Et tu mets ça en parallèle avec l'actualité parfois.
Ça me rassure ce que tu dis. Parce que vraiment, j'avais du mal à digérer tout ce que je voyais en visionnant le film.
Non, c'est pas possible.
J'ai vu d'autres Oliver Stone et pas celui-là, c'était une découverte. Et c'est compliqué. On n'a pas le temps d'assimiler, on n'a pas le temps d'intégrer. Et pour le spectateur, on n'est pas loin du bourrage de crâne, hein, très clairement.
C'est vrai. Ah ouais.
Ça a été déroutant, tu viens de l'expliquer, ça est légèrement déroutant quand même. Mais le côté plaisant a pris le pas. Qu'est-ce qui a fait que ça ait pris le pas, ce côté plaisant, sur le côté bourrage de crâne ?
Ça a pris le pas parce que c'est quand même Oliver Stone derrière la caméra et que c'est avant tout du cinéma aussi. Et donc voilà, il utilise très bien la musique de John Williams, le montage. Il utilise des images d'archives, il les mélange à des images filmées en noir et blanc. Donc il mélange aussi les époques, il utilise du grain, même pour des images tournées, enfin des images du tournage, donc pour casser les frontières entre le passé et le présent. Et aussi des grands numéros d'acteurs, enfin il y a beaucoup de, enfin le casting est vraiment remarquable. Et on a aussi des grandes prestations d'acteurs, donc c'est le final avec Costner, c'est vraiment du grand théâtre par exemple. C'est passionnant sur le fond, mais c'est aussi très soigné sur la forme. Donc c'est vraiment un film de divertissement avec un fond.
Et en termes visuels d'ailleurs, à aucun moment on est perdu d'ailleurs. Tu vois, tu parles du fait de casser les époques, de faire des allers-retours comme ça, mais on n'est jamais perdu sur le plan temporel, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une vraie grande force, je trouve aussi. Ça, c'est ton premier visionnage. Quand tu sors de là, t'arrives à le digérer, le film ? Tu arrives à pouvoir en discuter avec quelqu'un ou tu le gardes exclusivement pour toi ?
Sur le coup, je l'avais gardé pour moi, on en parlait un petit peu à mon entourage. Mes parents l'avaient vu, donc ils me l'avaient aussi recommandé. Après, j'en ai un peu plus parlé. Enfin, oui, après, au fur et à mesure, j'en ai parlé, en fait, parce que c'est pas forcément mon film préféré, mais c'est un film intéressant qui mérite d'être vu et discuté, en fait. Donc, je le prêtais à certaines personnes ou je le recommandais à d'autres. Tiens, JFK d'Oliver Stone. Peut-être après d'autres films, parce que c'est aussi un film qui... Voilà, il faut être préparé à se le prendre dans la gueule. Donc. Mais oui, j'en ai parlé un peu au fur et à mesure.
Et tes parents t'ont donné, sur le plan historique, parce que JFK, ce sont des faits historiques, tu l'expliquais, hein, on mêle des éléments de réalité et aussi de fiction. Il y a des clés, il y a des informations à aller chercher. Est-ce que tu t'es tourné du côté des parents ou est-ce que tu as effectué les recherches toi-même ? Est-ce qu'on a soif de la recherche de la véracité de ce qui a été dépeint dans le film par Oliver Stone ?
Alors oui, alors en fait, oui, j'ai plutôt fait des recherches par moi-même, mais je dois t'avouer que je ne suis pas un passionné de cette affaire. Elle est intéressante, mais voilà, en voyant le film, j'ai creusé par-ci par-là sur Internet, mais ça n'a pas forcément réveillé en moi une passion pour l'affaire Kennedy, comme Jim Garrison, quoi. Je ne me suis pas mis à lire les 27 volumes de la commission Warren. Je ne sais même pas si c'est humainement possible.
Non, non merci, ça ira.
Je pense fou. Faut être un peu foufou quand même pour se lancer dans ce voyage, quoi, si on peut dire.
C'est clair. Surtout avec des termes techniques, juridiques,
voilà. Tout à fait.
Et politiques.
Non, par contre, je pense que ça m'a donné peut-être plus le goût de m'intéresser à la politique, à l'histoire en fait, peut-être à l'histoire, les grandes lignes de l'histoire ou les plus petits événements. M'intéresser à l'histoire pour caser cet événement dans l'histoire globale en fait. Même si, enfin, l'histoire des États-Unis est intéressante, mais c'est pas forcément le point de l'histoire qui me passionne le plus. Mais ça éveille la curiosité, je pense quand même.
Du coup, aujourd'hui, tu as choisi de parler de JFK. Quand on préparait l'émission, tu m'expliquais que c'est fou la résonance qu'il a avec finalement tout ce qui concerne le complot, la théorie du complot, les théories du complot, ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui le complotisme, les complotistes. J'aimerais justement qu'on fasse un point sur ce que l'on sait à ce jour sur l'affaire JFK. Puis après, on va creuser cet aspect du complotisme.
Alors, donc je me base en partie sur le film, mais aussi sur des recherches que j'ai pu faire aussi à côté. Est-ce que c'est un complot organisé par la CIA, par le gouvernement ? Je ne sais pas, mais il y a des doutes sur l'unique culpabilité de Oswald, en fait, de l'assassin présumé de Kennedy. En fait, justement, je partirai pas de là en me basant sur une enquête ou autre. Je baserai sur un document que met en avant le film JFK, et c'est aussi grâce à ce film que ce document a gagné en popularité, c'est le film Zapruder. Donc Zapruder, c'était un Suisse qui était présent donc, lors du passage en voiture de Kennedy ce jour du 22 novembre 1963, et qui a filmé en fait le moment où Kennedy se prend les balles. Et donc Jim Garrison, dans le final, lors du procès, il montre cette vidéo au public, qui laisse entendre qu'il y aurait eu un autre tir, en fait, venant de l'autre côté.
Il la décortique même, hein, vraiment seconde par seconde. Il sort toute la substance du film pour expliquer l'impact des balles en question.
Et c'est génial parce que moi, je me suis même pris, ça devient même du cinéma interactif, c'est que je me suis pris à revoir le passage dans le film, en fait, donc pour décortiquer ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi du grain, donc c'est pas forcément facile d'analyser aussi le film. Mais c'est une piste qui est pas inintéressante, en fait. Et après, il y a d'autres éléments sur Oswald qui montrent qu'il n'était pas si bon au tir, que l'arme qu'il a utilisée n'était pas de bonne qualité, donc selon la thèse d'Oliver Stone. Donc voilà, quoi, ça titille la curiosité et le scepticisme, en fait.
Son nom est Lee Harvey Oswald. O-S-W-A-L-D.
Vous avez tiré sur le président ?
Non, monsieur, je n'ai tiré sur personne. La police ne m'a arrêté que parce que j'ai vécu en Union soviétique, c'est tout. Je ne suis qu'un bouc émissaire.
Oh mon Dieu, ce type me donne la chair de poule.
J'ai protesté à ce moment-là qu'on ne me permette pas d'être représenté légalement pendant cette audience rapide et superficielle. Je ne comprends pas vraiment la situation dans laquelle je me trouve. Personne ne m'a jamais rien dit, sauf que je suis accusé, paraît-il, du meurtre d'un policier. Je ne sais rien d'autre que ça. Et maintenant, je demande que quelqu'un se porte volontaire pour me donner une assistance juridique.
Avez-vous fait partie du mouvement pour la libération de Cuba ou je ne sais trop quoi ?
Le comité de soutien à Cuba.
Qu'avez-vous fait en Russie ?
Qu'est-il arrivé à votre œil ?
Il a l'air un peu trop calme pour un homme qui subit une telle tension.
Un policier m'a frappé.
Et d'ailleurs, Zapruder, l'auteur de ces films en Super 8, avait vendu son film au magazine Life pour 250 000 dollars quand même.
D'accord.
Et les images derrière ont été transmises donc à la commission Warren. Warren, c'était le président de la Cour suprême des États-Unis à l'époque, qui a récupéré toutes ces footage, toutes ces images. L'intégralité du film, d'ailleurs, n'a été diffusée à la télé qu'en 75, soit 6 ans après le procès de
Garrison.
Le fameux procès de Garrison face à Clay Bertrand,
on sait jamais.
Voilà. J'avais retenu Bertrand, tu vois. Oui, parce que le méchant de l'histoire a un pseudo, en fait, c'est Clay Bertrand. Certain Tommy Lee Jones avec un look improbable. On dirait Karl Lagerfeld, mais avec la queue de cheval en moins, qui avait un pseudo, donc qui était Kyle Bertrand.
J'ai répondu à ta question précédente, j'ai l'impression de ne pas avoir répondu en entier.
Ce qu'on sait aujourd'hui sur Kennedy, ce qu'on sait à ce jour, ce dont on est sûr, ce qu'on sait, et puis juste après, ce qu'on ne sait pas.
J'ai pas forcément relu des éléments de l'affaire. Mais ce qui est dit, alors c'est à la fin du film, c'est que les archives vont rouvrir en 2029. Donc ça a poussé quand même à faire réagir l'opinion et s'intéresser certains journalistes à la question. Donc certains doutes subsistent. Est-ce que les coupables sont les coupables désignés par Jim Garrison ? On ne sait pas, mais l'enquête se poursuit en tout cas dans la tête de certains.
Oui, parce que jusque-là, ce document est caché derrière la protection des sources et il est caché par le secret défense. Donc c'est la raison pour laquelle rien n'est révélé au public. Il faut encore attendre 8 ans. J'avais noté certaines choses. Ce qui est surtout frappant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de théorie plus solide de l'assassinat par Lee Harvey Oswald qui réagit seul, sans l'aide de services secrets ou autres réseaux.
Il y a plusieurs théories du complot. Le complot par les anticastristes, parce que Kennedy aurait fait un rapprochement avec l'URSS et Cuba. Il y a la théorie de la CIA, du FBI, du gouvernement actuel. Donc le président Lyndon Johnson, qui était son vice-président et qui est devenu président après la mort de Kennedy. Donc il y a cette théorie. Et la théorie qui englobe tout, quoi. C'est la théorie du complexe militaro-industriel. Donc Kennedy aurait voulu arrêter la guerre du Vietnam, ce qui aurait mis à mal l'industrie de l'armement, l'industrie militaire, d'où les raisons de l'assassinat de Kennedy. Et certains disent que Kennedy, tel un politicien, disait oui et non en fait. Il parlait d'arrêter la guerre au Vietnam et finalement il a dit il faut qu'on y reste. Donc finalement c'est aussi très flou, quoi.
D'où l'enlisement d'ailleurs qui a eu lieu dans la foulée.
Tout à fait.
De la part des États-Unis au Vietnam. On va pas forcément vous noyer sous les informations concernant l'affaire JFK, mais au moins vous avez quelques idées là-dessus.
Je vais ajouter un petit élément.
Je t'en prie, Isaac.
Tout part en fait finalement de la guerre du Vietnam aussi. Oliver Stone a fait le Vietnam. Il a été volontaire là-bas. Il n'a pas essayé d'y échapper comme un De Palma ou d'autres réalisateurs. Il s'est vraiment engagé là-bas. Bon, il s'en est pris plein la tronche, mais il a vécu l'expérience. Il a même fait sa trilogie, Platoon, Entre ciel et terre et Né un 4 juillet. Voilà, JFK ne vient pas de nulle part. Quoi. Je pense que ça vient aussi de cette blessure de l'Amérique, mais d'Oliver Stone par rapport à cette guerre.
C'est bien de le rappeler, ça en effet. Il y a une vraie implication personnelle, en fait. Il n'a pas raconté cette histoire pour la raconter. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que son héros est un ancien militaire aussi, quand on y pense, Garrison.
Exactement, et Oliver Stone, c'est quelqu'un de très... C'est pas un réalisateur intellectuel, c'est plus un instinctif qui parle avec ses tripes. Donc, il va tout mettre dans ses films, quitte à en faire trop, parfois frôler le ridicule, mais il met ses yens dans le ventre.
Et d'ailleurs, les FBI, CIA, ils prennent cher. Ouais. Pour lui, ces organisations-là, le Pentagone, qui plus est le gouvernement, toutes ces entités-là n'ont pas été transparentes par rapport à ce qui s'est passé sur JFK. Et évidemment, ça a suscité des polémiques. Hein. Ça, vous vous en doutez bien.
Pourquoi vous nous racontez tout ça ?
parce que ce putain d'enfoiré de Kennedy nous a volé cette putain d'enfoiré d'élection. Voilà pourquoi. Nixon avait tout pour être le plus grand président jusqu'à ce que Kennedy ravage ce pays, avec tous ces nègres partout qui réclament leurs droits. Pourquoi vous croyez qu'on a tant de crimes maintenant? Il a promis un peu trop à tous ces enculés. Voilà ce que je pense. La révolution arrive, mon cul, oui, c'est le fascisme qui revient. Et moi, je vais vous dire, le jour où ce petit enculé de communiste est mort a été un grand jour. Un grand jour pour notre pays. Et je suis pas heureux de savoir qu'on l'a fait payer à ce pauvre petit con d'Oswald. Il savait que dalle, lui. Tout le monde a le droit de savoir. Tout le monde a le droit de savoir pourquoi on l'a tué. Parce que c'était un communiste.
Mais allez-y. Appelez-moi à la barre pour témoigner. Je raconterai la même histoire. J'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre.
Très bien, Willy.
Isaac, c'est vrai que quand on a préparé l'émission, tu m'évoquais le fait que ce film t'a marqué sur ton rapport à tout ce qui concerne le complotisme. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ça, d'où le choix de ton film aujourd'hui. Ça a commencé à quel âge, ce sentiment-là, et ça s'est traduit comment ?
Bah, je dirais à la période où je l'ai vu, en fait. Donc quand on se prend un film comme ça, relativement jeune, il y a quand même une influence du film. Je peux pas le nier. L'avènement d'Internet dans ces années-là, vers 2007-2008, on va sur Internet, on regarde ça, on tombe sur d'autres sites qui parlent de complot sur tout et surtout n'importe quoi. C'est très adolescent, on y croit, on dit « Ah, il y a ça, des choses cachées ». Et finalement, en fait, moi, je me renseigne par ces moyens, mais finalement, bon, mon cerveau fonctionnait malgré tout et je me rendais compte aussi que c'était des théories parfois très très fumeuses et totalement stupides, voire très dangereuses. Et je pense que ce film-là, pour moi, il m'a poussé à réfléchir justement sur ces pans de l'histoire, mais aussi penser à contrario du film. Oui, c'est très bien fait, la thèse d'Oliver Stone est intéressante, mais il nous balance ces infos comme ça. Où est la contradiction? On ne la voit pas forcément. Donc il faut aussi que le spectateur se bouge les fesses pour regarder d'autres sources, contredire les choses à chaque fois, et je pense que ça continue en fait à me poursuivre aujourd'hui, parce que quand je vois un fait qui est relaté, je regarde d'autres sources, que ce soit Libération, Figaro, enfin je regarde tout, je mixe et je compare, et surtout je n'affirme pas en fait, il y a les faits, mais l'interprétation, tu ne peux pas la faire à froid comme ça en fait, enfin pas à chaud, je veux dire, c'est un peu ce que fait Stone, parce que lui il parle avec ses tripes, donc il va dire oui, ça c'est la vérité, voilà. Mais non, c'est pas que ça. Même si c'est un très bon spectacle cinématographique, c'est intéressant, c'est très stimulant intellectuellement, mais il faut éviter de prendre tout pour argent comptant. Je pense que c'est le mal du siècle, en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet. Ouais,
j'allais y venir, c'est très bien expliqué. C'est pour toi, on ne peut pas croire, a fortiori, ce qui est évoqué dans une fiction par un réalisateur qui est finalement trop impliqué personnellement.
Déjà, quoi. Oui, et entre tout le monde nous ment, c'est un complot des Illuminati, des reptiliens, et tout ce que disent les médias, c'est la vérité, je pense qu'il y a un fossé. Il y a un fossé, et il faut aussi regarder les deux, juger quelle est l'information la plus pertinente, et après se faire son avis. Mais jamais tout prendre, que ce soit une source ou l'autre, en fait.
C'est marrant, quand je suis entré en fac de droit, un professeur de droit public, droit constitutionnel, avait repris cette fameuse citation, pardonnez-moi, je ne sais plus de qui, mais tu vas peut-être la retrouver, Isaac, que jusque-là, vous avez pensé que la vie, c'était blanc ou noir, mais en fait, avec le droit, vous allez comprendre que la vie, c'est surtout une zone de gris. Toi, au quotidien, ce souci de rester dans le gris, au-delà de ce que tu viens de nous évoquer, les recoupements de journaux et de sources d'informations, ça t'a nourri encore durant ta vingtaine ? Comment ça s'est traduit ensuite? Ça, c'est un premier réflexe de recouper les infos, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore?
Ben, ça s'est traduit, en fait, parce que le fait de prendre différentes sources d'informations fait que tu vois les sources des sources, et je veux dire, tu accèdes justement à des auteurs, à des pans de l'histoire que tu ne connaissais pas. En fait, ça te pousse finalement à t'intéresser à d'autres choses et à élargir ta curiosité, et donc à te rendre le monde encore plus gris et complexe et beaucoup plus intéressant. Comparé à une personne qui va justement être fixée sur une vision de la réalité sans forcément regarder d'autres aspects périphériques qui pourraient la contredire.
Il y a eu l'affaire JFK. Tu me disais que ça t'a pas plus intéressé de ça, que, enfin, ça t'a intéressé, mais ça t'a pas passionné non plus. Il y a justement des sujets à controverse dans lesquels tu t'es plongé pleinement pour contourner ces théories complotistes ?
Bah, franchement, classiquement, le 11 septembre, à la même période, il y avait des théories ceci dessus, donc tu regardes, tu vois un peu ce qui se passe, des reportages type Loose Change qui sont passés. Et finalement, en fait, quand tu réfléchis, bon, c'est peut-être un peu trop gros pour être vrai. Voilà, il y a la théorie comme quoi il y aurait eu cet attentat pour envahir l'Afghanistan et l'Irak. Il faut quand même un certain investissement matériel et financier pour faire ces attentats. Vu le résultat en Afghanistan et en Irak, je pense pas que l'investissement soit très rentable, en fait. Le problème, c'est que limite, en fait, maintenant, il y a limite un déni du réel, en fait. Donc, voilà, tel attentat, ce serait un complot.
Bah non.
Un attentat, un meurtre, ça peut arriver. Si tout est complot, faut rester chez soi. Puis, en fait, ces attentats ont été instrumentalisés par le gouvernement. Ça, je le pense, et je ne suis pas le seul.
D'ailleurs, des fausses informations avaient été données aux soldats, puisque intervenait à tel endroit, il y aurait des armes de destruction massive.
Sûr.
Il y en a. Moi, je parle au conditionnel, mais lui, c'était carrément affirmatif.
Tout à fait.
Il y en a. Et c'est avéré que non.
Et avec le résultat qu'on constate jour après jour. Et puis, il y a toujours des fuites, en fait. Tout ne peut pas être si peu transparent. Je veux dire, il y a toujours. Enfin, s'il y a tant de monde impliqué dans un aussi gros événement, il y a forcément des fuites.
C'est ce qu'on voit dans le film, d'ailleurs, du côté de Garrison, ou même dans sa propre équipe, qui est en train de monter une grande enquête pour vraiment faire éclater la vérité sur l'assassinat de JFK. Même lui se heurte à des fuites.
Donc voilà, c'est en les deux sens, finalement.
Tout ce que tu évoques me rappelle une citation de Jim Garrison, donc Kevin Costner, qui cite un certain Adolf Hitler: « Plus le mensonge est gros, plus les gens y croiront. » C'est pas la plus belle définition du complotisme, ça ?
Exact. Et qui est une citation, au final, de Joseph Goebbels, je crois, ministre de l'Information d'Adolf Hitler.
L'un de ses plus célèbres lieutenants.
Exact. Il y a beaucoup de citations comme ça dans le film, aussi des citations de philosophes ou de sénateurs romains. L'histoire de Rome, c'est quand même beaucoup de complots, c'est dur de le nier. Et il y a un lien, justement, à ça, au complot de la Rome antique. C'est aussi intéressant, c'est ce côté mythologique, le côté historique que veut donner Stone à son film. Jim Garrison, un peu le chevalier blanc de la vérité, qui combat les institutions qui ont tué le grand monarque Kennedy. Et là, c'est là où je veux en revenir, si tu me permets.
Je t'en prie.
Au fait qu'il faut aussi penser contre le film d'Oliver Stone, c'est que finalement, Stone nous fait aussi une belle propagande de John Kennedy. Donc, genre idéal, on a au début du film des images d'époque qui retracent, on va dire, son parcours politique avant sa mort. Et on a une musique grandiloquente de John Williams.
Militaire même.
JFK, genre idéal, qui veut la paix dans le monde, qui veut arrêter la guerre au Vietnam, qui veut se rapprocher de l'URSS. C'est Dieu, c'est le bien en personne, en fait.
Novembre 1960. Le sénateur John Fitzgerald Kennedy du Massachusetts gagne l'une des élections les plus serrées dans l'histoire de l'Amérique contre le vice-président Richard Nixon avec à peine plus de 100 000 voix d'avance. Aux côtés de sa belle et élégante épouse, Jacqueline Bouvier, Kennedy est le symbole de la nouvelle liberté des années 60, signifiant changement et bouleversement pour le peuple américain.
That all men are created
equal. That I possess will be devoted to the cause of freedom around the world.
Il hérite d'une guerre secrète contre la dictature communiste de Castro à Cuba. Une guerre menée par la CIA et les exilés cubains mécontents.
C'est super intéressant ce que tu dis. En gros, c'est quelque part un clip de propagande. Regardez comme il était grand, un progressiste en avance sur son temps. Il voulait l'égalité, il voulait...
Et il y a eu des mesures progressistes sous Kennedy, il ne faut pas le nier. Mais il y a aussi des affaires de corruption avec la mafia. Il paraît que son élection aurait aussi été... il y aurait eu aussi des trucages d'élections par Kennedy. Enfin, Kennedy n'est pas non plus le chevalier blanc que prétend Stone et que prétend Garrison. Là, j'en reviens aussi à croiser les sources. Et donc oui, peut-être que Oswald n'était pas seul, mais Kennedy n'était pas non plus un agneau.
On va rester justement dans le film. J'aimerais beaucoup que tu me cites, Isaac, les scènes qui t'ont le plus marqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de ces 3h25 assez denses, assez riches ? Quelles scènes tu extirperais ou quelles éventuelles citations tu peux mélanger les deux ?
Pour commencer, le début que je viens de citer, donc avec les images d'époque de Kennedy, donc avant son assassinat, c'est l'introduction au film. Et la musique de Williams, c'est magnifique. Et on y croit presque, en fait. On est vraiment... voilà, la propagande fonctionne. Et on est vraiment, oui, Kennedy est le plus brillant et le meilleur. Et ça se termine par l'assassinat. Et le générique démarre avec une marche militaire très, très inquiétante. Et je trouve ça vraiment saisissant.
C'est marrant parce qu'en t'écoutant parler du film, je le vois un peu différemment, toujours dans cette forme de propagande. Mais aucun président des États-Unis n'avait été tué avant JFK. À part, enfin, il n'y en a eu qu'un seul, un seul président des États-Unis a été assassiné avant JFK, c'était un certain Lincoln. Et avant qu'ils se retrouvent, ces deux personnages, où est-ce qu'ils se retrouvent ?
Ils se retrouvent près du Lincoln Memorial.
Exactement. Et c'est, j'ai trouvé ça d'une intelligence dont Stone dit beaucoup de choses en un plan.
Il sait manier les thèmes, les symboles, et c'est ce qui rend vraiment son cinéma intéressant. Donc. La deuxième séquence qui m'avait bien scotché à l'époque, c'est lorsque Garrison rencontre un certain Monsieur X, un ancien de la CIA, je crois, qui lui explique les raisons de la mort de Kennedy, donc en lui expliquant le complexe militaro-industriel, que Kennedy voulait arrêter le Vietnam. Et là, Garrison, comme le secteur, est interloqué. Il fait « Mais non, mais on ne peut pas tuer un président parce qu'il voulait changer les choses et arrêter la guerre du Vietnam. » Et il conclut en disant « Tout effort... »
Je me souviens qu'il parlait des 80 millions de dollars que ça coûtait l'armée, et que si on ne s'en sert pas, c'est du gâchis.
C'est ça. L'effort de guerre est basé sur l'économie de guerre, et sans cette économie, pas d'emploi. Donc il liait justement le fameux nerf de la guerre, donc c'était vraiment une démonstration de cette théorie. Et voilà, Garrison en est...
Bouche bée.
Il en est comme deux ronds de flanc, si je peux me permettre l'expression. Et voilà, moi aussi, ça m'a bloqué, ça m'a fait réfléchir aussi sur le coup.
Pas de guerre, pas d'argent. L'organisation même de toute société, Monsieur Garrison, est basée sur la guerre. L'autorité de l'État sur son peuple réside dans sa puissance de guerre. Et Kennedy voulait mettre fin à la guerre froide dans son second mandat. Il voulait arrêter la compétition spatiale au profit d'une coopération avec les Soviétiques. Il a signé avec eux un traité interdisant les essais nucléaires. Il a refusé d'envahir Cuba en 1962. Et il préparait le retrait des troupes du Vietnam. Mais tout ça s'est écroulé le 22 novembre 1963.
Tu voulais me citer du coup une troisième scène qui t'a profondément marqué ?
La troisième scène marquante, c'est le procès. Donc le procès contre Clive Shaw, qui serait un des suspects du complot.
Donc Tommy Lee Jones.
Jones. Et donc Jim Garrison se livre à une plaidoirie franchement magnifique, très bien écrite, car Oliver Stone est aussi un très très bon dialoguiste. Ça dure peut-être plus de 20 minutes, je crois, en fait. Hein, donc c'est tout sa plaidoirie. Enfin, le film Zapruder, et ensuite il fait une longue plaidoirie avec moult citations romaines. Et à la fin... Il fait un regard caméra, en fait, en incitant le spectateur, le public, à aussi se bouger, à réfléchir et ne pas rester passif. Ça peut être vu comme limite populiste, mais c'est vraiment un moyen de bouger le spectateur. Je trouve ça fascinant.
La vérité est la plus importante de toutes nos valeurs, parce que si la vérité ne survit pas, si le gouvernement assassine la vérité, si nous ne respectons pas le cœur dont font preuve ces gens, alors ce n'est pas le pays où je suis venu au monde et ce n'est certainement pas le pays où je veux mourir. Tennyson a écrit « L'autorité oublie un roi qui meurt ». Ça n'a jamais été plus vrai que pour John Fitzgerald Kennedy, dont le meurtre a été probablement l'un des plus horribles moments dans l'histoire de notre pays. Nous, le peuple, le jury qui avons prononcé un jugement sur Clay Shaw, représentons l'espoir de l'humanité contre le pouvoir de l'État. En accomplissant votre devoir, en apportant une première condamnation dans ce château de cartes contre Clay Shaw, ne cherchez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. N'oubliez pas votre roi qui meurt. Montrez au monde que ceci est toujours un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
C'est vrai qu'elle est magnifique, cette... plaidoirie de Costner dans le film. Quel talent de comédien il faut pour incarner ça. Enfin, déjà, il y a eu un premier visionnage. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ?
Il y en a eu d'autres, d'autres entiers, ou bien par partie, en fait. Je regardais certaines parties parce que la mise en scène me plaisait, la musique sonnait bien, donc des morceaux que je regardais comme ça, en fait. Je picorais pour l'image, le cadrage, comme le passage où Jim Garrison passe par le Lincoln Memorial. Ce genre de choses, de détails qui me plaisaient, en fait.
et ça faisait mûrir en toi deux potentiels futurs projets en tant que toi cinéaste, vidéaste.
Oui, je pense, oui, non, parce que le visionnage et revisionnage de films qui m'ont inspiré, ça me nourrissait aussi en fait, donc je captais consciemment et inconsciemment des éléments de mise en scène, des plans, donc pour pas forcément les reproduire, mais les avoir en tête et voilà, les avoir dans mon imaginaire, comme tout réalisateur, compositeur ou autre, en fait.
Oui, on se nourrit toujours du travail des artistes qui nous précédaient, forcément. En voyant le film, il y a toute une galerie de personnages, on va pas tous vous les dépeindre, on va pas faire comme Oliver Stone et vous bourrer le crâne, mais j'aimerais savoir vraiment, la question va te paraître étrange, mais j'assume, je me demande vraiment... Quels sont les personnages qui t'ont le moins touché dans le film et quels sont les personnages qui t'ont le plus touché dans le film ?
Mais excellente question, parce que je ne trouve pas les personnages du film attachants, en fait. Je suis le film comme une enquête passionnante, mais le Kevin Costner, gendre idéal avec sa petite famille américaine, moi, ça me touche personnellement vraiment pas. Et à la limite, le personnage qui est le plus intéressant, c'est Oswald, en fait.
Ouais, Gary Oldman, ouais.
Le reste des personnages sont quand même un petit peu lisses, quoi. C'est quand même... On a les méchants, Joe Pesci et Tommy Lee Jones. Mais justement, ils sont très, très caricaturaux. Et c'est là, justement, où on revient au côté propagandiste de Stone. Donc, des méchants un peu délurés qui font des parties fines. C'est très grossier, c'est très caricatural.
Ne m'en parle pas, on ne l'a pas encore évoqué, mais ça inclut aussi l'homosexualité de ces personnages-là.
Tout à fait.
Enfin, on n'est pas loin de la... On est pourtant au début des années 90, mais malheureusement, on n'est pas loin de la cage aux folles.
Oui, c'est ça.
C'est caricatural au possible, c'est d'une tristesse sans nom à regarder aujourd'hui.
Et donc, en fait, le plus intéressant, c'est Oswald, parce qu'il est toujours vu dans des flashbacks, à des brefs moments de sa vie. On parle de lui, mais on ne le voit pas agir. Voilà, on a des flashbacks de ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait pu faire, donc tout est toujours hypothétique. Mais en fait, c'est lui le plus intéressant, parce que c'est le plus mystérieux, en fait.
C'est pas frustrant, finalement, de ne pas avoir son point de vue à lui dans ce film ?
Si, surtout que l'acteur est quand même... Enfin, l'acteur, c'est Gary Oldman, quoi. Donc, on se dit toujours, ça aurait été bien de le voir face à Costner ou face à d'autres acteurs pour voir plus d'interactions du personnage. Mais bah, c'est comme l'enquête, en fait, elle est frustrante. Comme le film, finalement, aussi, on n'aura jamais toute la vérité sur l'affaire.
Rappelons, hein, je l'ai dit en intro, donc le commissaire Gordon dans les Dark Knight, et aussi Sirius Black dans les Harry Potter, et j'en passe. Hein,
et le méchant de Léon, surtout.
Oui.
Qui se fait des craquages de nuque.
Assez mémorable, ouais. Là, on entre dans les années 2010, le complotisme grimpe. Et pas qu'un peu. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai des exemples à l'appel, hein, mais je t'en donne comme ça. On va rester aux États-Unis. Je me souviens, par exemple, d'un certain président qui a balancé une fausse rumeur, Trump, avant qu'il devienne président, expliquant qu'Obama n'était pas né aux États-Unis, mais qu'il est né au Kenya. Du coup, il n'est pas né américain, donc il ne peut pas devenir président. Je pense bien évidemment à l'affaire DSK, affaire d'accusation de viol par Nafissatou Diallo à New York. Ça sort juste avant des élections présidentielles de 2012. Du coup, il y avait ces informations comme quoi ça a été orchestré par l'opposition afin de l'empêcher de se présenter aux présidentielles de 2012. Mmh. Bref, le complotisme monte. Twitter aussi relaie des informations assez étonnantes, fausses, bien sûr, les réseaux sociaux en général. Toi, comment tu te comportes face à cette démultiplication d'informations sur divers médias pour faire le tri, et comment tu te sens face à ça ? Est-ce que tu arrives à t'organiser ou est-ce que tu te sentais débordé ?
Bon, on est toujours un peu débordé sur les réseaux parce que les infos foisonnent, en fait, que ce soit sur ton smartphone, sur ton Facebook, sur Yahoo Actualité. Enfin, il y a toujours une information un peu truculente et bon, toi tu vas cliquer comme tout le monde, moi je suis premier à le faire.
Du ouais, putaclic.
C'est ça, ouais, du putaclic, comme on dit. Enfin, Facebook, n'importe qui balance tel... que ce soit des fake news de base, genre un tel a besoin d'une transfusion sanguine pour tel hôpital, mais en fait cet hôpital, l'adresse n'est pas bonne, le numéro de téléphone n'est pas bon, donc c'est pipeau. Ça a été demandé en 2010, on est en 2020, donc il y a un peu de retard pour cette transfusion, je pense. Et ça, oui. C'est le plus petit niveau, et après t'as le plus gros niveau, donc tel complot sur le Covid, tel complot sur ceci, mais... Moi, je pense être plutôt vacciné. Enfin, on est toujours sur influence. Hein. Je ne vais pas mettre au-dessus de la mêlée. Mais j'essaie, dans la mesure du possible, de regarder d'autres sources différentes pour me faire mon avis. Mais essayer de ne pas crier avec les loups et de garder un peu de mesure. C'est pas si facile que ça, hein, c'est compliqué. Comme je dis, je suis pas le... Je peux aussi me faire avoir, hein, mais peut tous se faire avoir.
Bien sûr.
Non, le plus dur, en fait, ce qu'il faut, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. Ça, c'est le plus grand signe d'humilité.
C'est pas un, oui, ça, c'est pas un certain président des États-Unis qui le ferait. Quoique, il s'est excusé, je crois, pour Trump, pour l'affaire du... les miracles existent. Et tu as vu que le complotisme, en plus, s'installe partout. Hein. Je parlais des réseaux sociaux.
À la télé, hein. On invite n'importe qui aux émissions de télé qui viennent dire n'importe quoi aussi. Et...
C'est ça, je pense à des Francis Lalanne, je pense à des Kim Glow, qui est une espèce de starlette de la télé-réalité aussi, qui via ses Instagram véhicule des choses fausses.
Ah, je connais pas.
Pour citer un exemple, c'est pas très grave.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le terme complotisme, en fait, qui est utilisé à toutes les sauces.
Ouais.
Tomber dans le discours complotiste absolu, c'est un piège. Mais désigner quelqu'un du doigt complotiste parce qu'il essaie de s'intéresser à une affaire en particulier ou à un point de l'histoire en particulier, c'est aussi contre-productif, en fait, quoi. Ça entraîne une spirale. L'autre, justement, va encore plus s'enfoncer dans des théories encore plus délirantes, s'il n'y était pas déjà. Voilà, je pense qu'il faut... Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, mais...
Non, mais ça a fait naître beaucoup de choses, hein. Je pense à QAnon...
QAnon, exactement, qui était des partisans de Trump, je crois, et qui colportait beaucoup de théories du complot.
Et ça marche. Et il y en a qui adhèrent, il y en a qui embrassent les idées, juste parce que tel mec l'a dit, je suis d'accord, et c'est vrai. Et c'est difficile de le stopper, ça.
Et quand c'est dit par quelqu'un qui a un peu de charisme, qui a des formules qui font mouche, c'est... Ouais, ça... Tu tombes après un peu dans une spirale, quoi. Donc c'est le. Faut toujours questionner les faits, en fait. Au-delà, oui, un tel l'a dit, mais pourquoi il l'a dit? Quelles sont ses sources? Quel est son intérêt de le dire aussi? Dire ça, qu'est-ce que. Toujours déconstruire, en fait, tout.
D'autant plus en ce moment, ça s'applique aussi à la crise sanitaire. Hein. Il y a une montée de complotisme aussi concernant la vaccination. Et on a le droit de ne pas vouloir se vacciner, mais parce qu'on n'a pas envie de se faire vacciner, on peut être taxé de complotiste aussi.
Exactement, exactement. Il y a une grande méfiance vis-à-vis du journalisme aussi, qui sont censés être le premier vecteur, on va dire, de démocratie, donc donner l'information au peuple. Certains se trompent, certains disent parfois des bêtises, ce qui perpétue justement une spirale de défiance et qui fait monter le complotisme. Je prends un exemple tout simple, hein. Comment s'appelait le criminel recherché là, qui a tué sa famille et...
Dupont de Ligonnès.
Dupont de Ligonnès. Là, c'est quand même un bel exemple de foirade journalistique. Et
oui.
Donc là, pour le coup,
on aurait cru retrouver l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Scotland Yard.
Et donc, voilà, l'info s'est propagée parce qu'il faut quand même que ça soit lu, qu'il y ait un peu de buzz. Mais bon, vous êtes trompé, donc là, ça vous fait baisser par rapport au... Enfin, ça fait perdre en crédibilité.
On peut vite se décrédibiliser, en effet.
Alors, tu n'as pas cru un seul mot depuis le début?
Tout ce que je veux, c'est élever nos enfants, retrouver une vie normale. Je veux retrouver ma vie!
Mais moi aussi, bordel de merde! J'ai une vie, moi aussi, tu sais! Tu ne peux pas continuer à t'enfouir la tête dans le sable comme une autruche, Lise! Il ne s'agit pas de notre confort, il ne s'agit pas de nos deux voitures, de notre télé et de notre cuisine. Je me suis rendu compte que nos enfants grandissaient sur un tas de fumier et de mensonges. Et ça fout ma vie en l'air.
Je pense qu'on aura bien compris ton rapport à ce film. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler?
Non. Alors par contre, un truc que je trouve aussi sympa, qui renforce le côté complotiste du film, c'est que la femme de Garrison ne le croit pas au début, en fait, sur cette théorie. Arrive coup sur coup... l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de Robert Kennedy, je crois, qui est le frère de John. Et après ces événements, la femme de Garrison se met de son côté, elle vient au procès, et ça renforce l'unité familiale. Donc c'est aussi intéressant. Stone joue bien sur le montage pour impliquer son spectateur dans l'histoire.
C'est marrant. Ça, c'est le passage intéressant, c'est clair. Mais parfois, il s'est appesanti sur le fait que l'affaire JFK bouffe de l'intérieur Kevin Costner. Il n'en dort plus. Ça devient source de disputes avec Madame. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, le film. Parfois, il s'appesantit un peu.
Ouais, et surtout que Le personnage de Madame Garrison, qui est interprétée par Sissy Spacek, je trouve n'est pas suffisamment bien écrit pour faire un point de vue suffisamment consistant pour Garrison, en fait. Voilà, elle se plaint qu'il n'est pas là pour les enfants et pour elle, mais voilà, elle va pas essayer d'argumenter ou de faire dévier, en fait, sa voix. Donc, c'est aussi, quand je parlais justement de la famille américaine très proprette, voilà, c'est des petites touches sympathiques, mais c'est quand même une faiblesse du film, je trouve.
Ouais, t'as raison, elle est très peu écrite, et elle n'est définie qu'en tant que mère qui râle, parce que le père est absent. C'est quand même très limité. Qu'est-ce qui fait qu'il résonne toujours en toi aujourd'hui? Tu l'as vu récemment en plus pour l'émission.
Bah ouais, bah il résonne aussi.
Pourquoi il faut le revoir encore en 2021?
Bah il faut le revoir parce que c'est un film stimulant sur le plan cinématographique. C'est quand même un film qui a fait bien réagir, qui a fait polémique justement, mais pour des choses intéressantes, pas pour des...
Des broutilles?
Ouais, pas pour des broutilles. Même voilà, sur le plan cinématographique, c'est vachement intéressant. On parlait de symbolique... On parle de musique aussi, il y a une belle BO de Williams, peut-être un petit peu caricaturale parfois, mais qui est vraiment bien, bien écrite. Mais je conseille de voir ce film et de voir le reste de la filmo de Stone, parce que c'est un réalisateur parfois maladroit, qui n'y va pas par quatre chemins, mais qui est stimulant, qui veut faire bouger, qui veut secouer son spectateur. Et je trouve qu'il y parvient à chaque fois. Un peu moins vers ses derniers films, là, mais il est plus pépère.
Non, mais c'est clair. J'avais peur que ce soit trop académique. Parfois, il flirte avec ça, mais ça va. Il s'en sort.
Mais justement, ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un réalisateur très académique à la base. Et là, il a voulu rendre son film un peu plus respectable, moins sale gosse que des Tueurs nés ou L'Enfer du Dimanche. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit désir de respectabilité. Peut-être présenter le film aux Oscars. Peut-être pour ça qu'il y a un côté un peu lisse, parfois.
Et d'ailleurs, il l'a eu. Il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film-là et deux Oscars techniques, montage et photographie.
Bah, il a réussi son coup, alors. Chapeau, chapeau Stone.
Complètement, voilà. Le film s'appelle JFK et il est disponible en DVD Blu-ray, bien sûr, et aussi sur la plateforme Amazon Prime Video.
La fameuse.
Alors, il faut fouiller, hein, par contre, pour le trouver. Hein. On a un peu galéré. Vous tapez JFK, vous tombez pas forcément dessus. Donc, je vous invite à passer notamment par Allociné ou d'autres sites qui mettent des liens directs vers le bon lien Amazon Prime Video. On a un peu galéré, on avoue. Ça, c'était JFK d'Oliver Stone. Il nous reste quelques minutes, Isaac, pour passer en revue deux recommandations de films, s'il te plaît. Et je t'écoute pour la première reco. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs?
Alors, on peut leur conseiller Heat de Michael Mann.
Oui, ah oui.
Donc, c'est un polar qui se déroule à Los Angeles. Et ça parle des destins croisés de Pacino, qui est un flic chevronné, mais dont l'actuel mariage se barre totalement en cacahuète. Et De Niro, qui est à la tête d'un gang de braqueurs, donc qui s'apprête à faire un joli coup. Et donc, c'est un jeu du chat et la souris durant tout le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'amitié, de respect qui va se former entre De Niro et Pacino, alors qu'ils sont censés être ennemis jurés. L'un doit échapper à l'autre et l'autre doit arrêter l'un. C'est un film qui est intéressant parce que c'est un polar très mélancolique, très romantique, en fait. Donc, quand il y a de l'action, ça défouraille. Il y a aussi beaucoup de dialogue, beaucoup de lenteur, en fait. Ça crée une atmosphère vraiment mélancolique. Et je parle pas du final qui est vraiment fou le cafard, quoi. Mais c'est un classique, c'est vraiment à voir.
Bon, Isaac veut définitivement nous faire voir des films de plus de 2h45 qui durent 2h50, hein, Hit. Faut s'accrocher. Il est dispo sur Amazon Prime Video, sur Canal Plus, Canal VOD, sur OCS également. Et oui, il date de 1995, hein, le casting de Niro Pacino, bien sûr. Une scène de fusillade hallucinante. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Et cette photographie,
ouais, cette photographie
qui suit la BO de Michael Mann. T'en parleras beaucoup mieux que moi, Isaac.
La photographie, bah justement, le fait de transformer Los Angeles, qui est... Bon, alors, j'ai jamais été, hein, mais c'est pas une ville qui a l'air très glamour, en fait. Mais lui, il la transforme, il la poétise et... Voilà, c'est très fort de transformer une ville qui est constituée de buildings et de terrains vagues en splendeur, quoi. Donc voilà, chapeau. Il le fait aussi avec Collateral quelques années plus tard.
Cette espèce de bleu nuit, ouais, et de grain qui est dans la photo.
Ouais, c'est un poète urbain, quoi. C'est le rappeur du cinéma, si je puis dire.
Voilà, Hit de Michael Mann, ta première reco. Ta deuxième recommandation, ta seconde.
Seconde recommandation, Assassin avec un S entre parenthèses à la fin, de Mathieu Kassovitz, j'allais dire Michael Mann encore. Personnage principal joué par Kassovitz, c'est un jeune homme de banlieue parisienne en perdition qui rencontre un vieil homme, un tueur, incarné par Michel Serrault, qui va le prendre sous son aile et le former pour en faire son héritier, son poulain, quoi. Et donc, c'est un film très, très spécial. Donc, assez loin de La Haine, finalement. C'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins humoristique, parce que dans La Haine, tu as des passages humoristiques. Là, c'est un peu plus sombre. Très peu d'action, finalement. Beaucoup de dialogue, beaucoup de lenteur aussi. Beaucoup de silence. Ouais, c'est un film vraiment un peu malsain.
C'est exigeant, mais plaisant, quand même, malgré son côté malsain.
C'est à la limite, en fait. C'est pas le film que tu vas regarder souvent, en fait. Hein. Peut-être pour des passages vraiment... Mais c'est pas le film que tu te mates entre potes ou avec ta copine. Mais c'est intéressant et c'est un film qui s'est vautré à la sortie. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est très dur pour Kassovitz de revenir à la réalisation. Le fait qu'il reste acteur, très bon acteur aussi. Enfin, il y a vraiment potentiel dans ce film-là. Et on l'a vu un peu après que L'Ordre et la Morale, qui était très bon, mais qui s'est aussi vautré. Et tu dis, ouais, c'est dommage, il y a un cinéma qui est exigeant, qui est intéressant. Mais ça se vautre. Et comme lui, il a un caractère de merde, ben, il traite tout le monde parce que personne ne veut voir son film.
Oui, il s'était d'ailleurs énervé contre les Césars. Hein. Il avait dit quelque chose de pas très sympa envers la cérémonie des Césars.
Ouais, à base de pipe, vos bipes.
Mais oui,
ouais,
j'emmerde le cinéma français, mais en beaucoup plus grossier. En effet, puis il était venu quand même, il y était allé quand même. Non, ben écoute, on va essayer d'y jeter un œil à cet Assassin qui date de 1997, Michel Serrault, Mathieu Kassovitz et François Levental, entre autres.
Si je peux ajouter un détail, quelque chose de très intéressant, c'est sur la pochette du DVD, je trouve ça plutôt audacieux de la part du marketing, ils ont mis deux citations de critiques, en fait, derrière la pochette. Une, alors je sais plus si c'est Le Monde ou un autre qui disait un chef-d'œuvre ou un des meilleurs films français depuis je sais pas combien, et à une critique Figaro ou autre, le film le plus nul du cinéma. Et je trouvais ça intéressant de mettre deux critiques opposées.
Pour une fois qu'on n'est pas en mode flagornerie, pour utiliser un mot savant, en mode autoflatterie.
C'est vraiment pas mal.
En effet, Assassin de Mathieu Kassovitz, vous pouvez le retrouver sur les plateformes VOD d'Orange et sur Univers Ciné également. Merci beaucoup Isaac, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Merci à toi Junior.
Merci, à bientôt.
Ciao.
Non, l'épisode n'est pas terminé, on ne stoppe pas tout de suite la lecture, car comme promis, je continue ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos messages laissés cette fois sur Apple Podcast, un message de MX Ludovic, qui, à propos du film qui a changé ma vie, m'écrit que c'est un podcast qui nous permet de comprendre les réelles émotions que peuvent nous procurer certains films et de comprendre aussi comment un film peut marquer les esprits et changer une vie. Félicitations pour ce projet et continue de nous faire découvrir des histoires qui nous touchent. Merci beaucoup pour ce message qui me fait vraiment plaisir. Faites comme MX Ludovic et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict et c'est peut-être votre message que je lirai prochainement ici même. Le film qui a changé ma vie, épisode 20, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'émission que vous venez d'entendre ainsi que les 19 épisodes précédents sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.